Bonsoir à tous. On est heureux de vous accueillir dans ce lieu. Et je vous invite tout de suite à ouvrir le Saint-Livre dans l'Évangile de Luc au chapitre 14, s'il vous plaît. Nous allons lire une parabole que Jésus va apporter pendant un repas. Une parabole, c'est une petite histoire qui sert à illustrer des principes spirituels. Et pour que l'on puisse mieux comprendre les principes du royaume de Dieu, Jésus utilisait des petites histoires pour qu'on puisse bien comprendre. Donc dans Luc au chapitre 14, on va lire juste le premier verset, il nous est dit « Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. » Verset 15 « Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. » « Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun des hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. » Amen. Amen. On va étudier ensemble ce texte. Et tout de suite, on remarque que cette parabole, elle a été donnée pendant un repas. C'est ce qu'on a lu au verset premier. C'était un pharisien qui avait invité Jésus. Un jour de sabbat, et donc il y avait plusieurs invités qui étaient là. Il y avait une personne qui était malade, que Jésus va guérir pendant le jour du sabbat. Bon, ça va faire polémique parmi les pharisiens. Jésus va donner une première parabole. Puis, suite à ces événements, il y a un homme qui va être saisi. On ne sait pas si c'était un pharisien ou pas. C'est un de ceux qui étaient à table. Et cet homme va dire, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et suite à cette remarque, à cette interpellation de cet homme, Jésus va donner cette parabole pour illustrer le repas qu'il y a dans le royaume des cieux. Jésus va expliquer les choses, va répondre à cet homme. C'est ce qu'on a dit. Jésus lui répondit au verset 16. Le repas dans le royaume des dieux, de Dieu. Alors qu'est-ce que ça représente un repas? Alors pour certains, le repas, on pourrait dire, c'est pour reprendre des forces. Manger, c'est un peu comme faire le plein d'une voiture. C'est, on prend des forces, on mange le matin, comme ça on a des forces et puis on peut accomplir tout ce que l'on va faire dans la journée. Ça pourrait être, et il y a d'autres textes dans la Bible où c'est effectivement cette image. On prend des forces parce que on va prendre un repas. Prendre un repas, c'est s'alimenter, c'est faire le plein de forces. Mais ici en France, on sait que le repas, c'est pas que ça. Et dans les pays orientaux, notamment dans ce temps-là en Israël, un repas c'était bien plus que simplement reprendre des forces. Le repas c'était notamment un temps d'échange. C'est un moment où on peut échanger. En France, on aime bien manger. Pourquoi ? On aime bien manger la nourriture en soi, mais on aime bien partager des moments autour d'une table avec des gens. Vous savez que en France, souvent quand on veut faire des affaires, ce que font les commerciaux, ils font quoi? Ils invitent à un repas, ils mangent avec les personnes avec qui l'affaire doit être contractée, et généralement ça se passe bien, autour d'un repas. Aujourd'hui, de plus en plus, quand on entend des recrutements, le recruteur paye un repas pour échanger, etc. Puis après avoir bien bu, il fait signer le contrat. Voilà. Non, c'est une blague. Mais ça se fait autour d'un repas. Le repas, c'est quoi? Le repas, c'est un temps d'intimité. Au final, quand on a un repas, on a un moment intime avec quelqu'un d'autre. Parce que que ça vous est déjà arrivé d'être invité par des amis? Ça fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'on va passer un bon moment avec eux. Hein? On peut se dire, ah bah tiens, si telle personne m'invitait, je serais heureux. Parce que je vais passer un bon moment avec. Puis si telle autre personne m'invitait, aïe aïe aïe. Parce que je sais que je vais devoir passer un certain moment avec la personne. Donc au final, le repas, c'est plus que manger. Le repas, c'est avoir une intimité avec quelqu'un. C'est partager avec quelqu'un. Et on voit que cet homme, en ayant partagé son repas avec Jésus, en ayant vu ce que Jésus a fait, la première parabole qu'il a donnée, il va dire « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume des cieux ». On pourrait dire « Heureux celui qui aura une intimité avec Dieu dans son royaume ». C'est ça qu'il voulait dire. Et Jésus va lui répondre et va nous donner cette parabole. Dans cette parabole, au verset 16, il va dire « Un homme donna un grand repas et invita beaucoup de gens ». On voit dans cette parabole que donc cet homme qui donna un grand repas, on comprend que c'est Dieu qui va donner un repas. Dans certaines versions, c'est écrit qu'il préparera le repas. La première chose que l'on peut noter, c'est que le repas, c'est Dieu qui le prépare. Au final, nous, on peut vouloir une intimité avec Dieu, mais on voit au travers de cette parabole que plus que nous, Dieu désire une intimité avec nous. Alors on pourrait se poser une question, mais tout de suite, mais comment est-ce possible d'avoir une intimité avec Dieu? Comment est-ce possible d'avoir ce moment d'échange, ce moment où on donne et on reçoit avec le Seigneur? La Bible nous dit que Dieu est saint, Dieu est pur, Dieu est sans tache, il est infiniment élevé. Et la Bible dit aussi par contre que l'homme est pécheur, que l'homme aime le mal, fait le mal. Comment est-ce possible qu'un Dieu si grand, qu'un Dieu si saint, qu'un Dieu si parfait prépare un repas et veulent communier avec des personnes qui sont aussi imparfaites, aussi mauvaises que nous? On voit que ce repas, c'est Dieu qui l'a préparé. La Bible nous dit, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si on peut avoir un temps, une intimité avec Dieu, c'est parce que Dieu a fait le nécessaire pour que nous puissions avoir cette intimité avec lui. Et on voit que pour que nous puissions avoir cette intimité avec lui, il faut au préalable que nous puissions être pardonnés de tous nos péchés. C'est le moyen. Et pour que nous puissions être pardonnés de tous nos péchés, Dieu a préparé, a prévu un moyen pour cela. Et ce moyen, c'est la mort de Jésus à la croix. La Bible nous dit que l'homme a péché, que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible nous dit que le salaire du péché est tombé sur Jésus-Christ à la croix. Et plutôt que de vouloir nous punir, Jésus a choisi, en la personne de son Fils, de nous réconcilier avec lui. Et en faisant en sorte que ce soit Jésus qui paye pour nos péchés à la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si l'on peut communier avec Dieu, si l'on peut avoir part à ce repas, c'est parce que Jésus, Dieu, nous le permet, parce qu'il a payé pour nos fautes à la croix. Si on va lire un autre texte dans le livre d'Ésaïe, alors ne le cherchez pas, je vais vous le lire, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 25, on voit cette réalité qui est prophétisée des centaines d'années avant que Jésus vienne. C'est dans Ésaïe au chapitre 25 et au verset 6. Il nous est dit « L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne » il parle de Jérusalem « un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, des mets succulents pleins de moelle, des vins vieux clarifiés. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de la terre l'opprobre de son peuple. » On voit dans ce texte que Dieu prépare un repas. Il prépare un repas. Et on voit que sur cette même montagne, des années plus tard, Jésus qui est Dieu viendra et lui aussi va servir un repas. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26. Ce repas, c'est celui qu'on appelle communément la Sainte Cène. Et c'est Jésus qui est avec ses disciples. Et donc dans Matthieu, au chapitre 26, au verset 26, il va dire, pendant qu'il mangeait, donc pendant le repas, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples, en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Vous voyez, une invitation à manger. Jésus va leur donner le pain, qui représente son corps qui va être brisé. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. Donc on voit vraiment ce repas où Dieu est à l'origine. Et on voit au final que Jésus va instituer ce repas de la scène, où il va montrer qu'au final, ce qui nourrit, ce qui donne la vie, les aliments, c'est sa vie à lui qui va être brisée. Et que ce sacrifice qu'il va faire, c'est pour le pardon des péchés. Comment est-ce que l'on peut avoir un repas avec Dieu? Comment est-ce qu'on peut venir dans sa présence? Comment est-ce que l'on peut communier avec lui? Tout simplement parce que c'est lui qui a prévu le repas. Et d'ailleurs, il nous est dit qu'il confie à ses disciples la charge de répéter ce repas pour se souvenir de ce qu'il a fait pour nous, en attendant un autre repas. Il va dire, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc il y a ce repas qu'on communie, qu'on remémore, qui symbolise la mort de Jésus. Mais il y a aussi un repas à venir, le grand repas, que la Bible appelle le festin des noces. Un repas qui arrive. Donc Dieu lui-même dresse le repas. Et si on peut avoir une communion avec Jésus, si on peut avoir un repas, c'est pas parce que nous on va le préparer, mais c'est parce que lui l'a préparé pour nous. Et au final, c'est lui qui a payé le prix pour que l'on puisse avoir une intimité avec lui. Dans Éphésiens, au chapitre 2, au verset 8, il nous est dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. » C'est le don de Dieu. Si je peux être sauvé, si je peux avoir une intimité avec Dieu, c'est Dieu qui le donne, c'est Dieu qui le permet. Et il nous prépare ce repas, et ce n'est pas un repas que l'on mérite, c'est un repas qui est immérité, c'est la grâce de Dieu. Mais si l'on retourne dans l'évangile de Luc, dans cette parabole, donc Luc au chapitre 14, il nous est dit donc que, au verset 16, un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. Oui, Dieu a préparé le repas, mais Dieu invite à venir à ce repas. Et tout à l'heure, dans ce texte que j'ai cité de Jean 3,16, il nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque. Là, dans ce texte, il nous est dit qu'il y a eu beaucoup d'invités. Est-ce que vous savez que vous êtes invité à ce repas? Dieu a préparé ce repas. Dieu a préparé le moyen d'avoir une intimité avec vous, mais Dieu vous invite. Vous invite. C'est quand même quelque chose. Au final, qu'est-ce qui fait la valeur du repas? Est-ce que c'est ce que l'on va manger? Certains pourraient dire oui. Ou est-ce que c'est celui qui invite? Est-ce que vous ne seriez pas honoré si telle personne vous invitait? Si tel responsable dans ce monde vous invitait? Est-ce que vous ne seriez pas honoré, rien que le fait que quelqu'un de notable ait pensé à vous et vous invite? Alors que dire quand c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant qui vous invite, vous? C'est quelque chose. Quel honneur d'être honoré de cette manière parce que Dieu nous invite. Au verset 17, donc il va inviter beaucoup de gens, et à l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » On voit qu'à un moment, il est venu l'heure du repas, l'heure de communier avec Dieu. C'est l'heure. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et peut-être que ce soir, vous entendez l'appel de Dieu qui vous réclame dans sa présence parce qu'il veut communier avec vous. C'est l'heure du repas. C'est maintenant, aujourd'hui, maintenant. si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Mais à l'heure du repas, au moment où Dieu a appelé des hommes, cet homme a appelé des hommes à venir communier avec lui, il y a eu deux attitudes face à cette invitation. La première attitude, on la voit, c'est qu'il nous est dit au verset 18 que tous unanimement se mirent à s'excuser. C'est-à-dire que toutes les personnes que cet homme avait invitées ont décliné l'invitation. Alors au verset 18, il nous est dit, le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Le premier a acheté un champ. Pourquoi est-ce qu'il a décliné l'invitation ? Parce qu'il y avait quelque chose de plus important pour lui. C'était son champ. C'était la richesse. Et certains peuvent décliner l'invitation du Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'au final, il y a des choses matérielles qui ont plus de valeur que la présence de Dieu. Au verset 19, un autre dit, je viens de me... Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Alors 5 paires de bœufs, à l'époque, c'était 5 tracteurs. Ça veut dire que cet homme, il devait avoir énormément de champs. Parce que pour avoir 5 paires de bœufs pour labourer ses champs, ça devait être quelque chose. Cet homme, il préférait le travail, il préférait l'activité, il préférait aussi les richesses plutôt que Dieu. Et au verset 20, un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Et là aussi, cet homme, ce qu'il préférait, c'était les relations. Avec, pour le coup, c'était avec sa femme, plutôt que Dieu. Alors qu'il aurait très bien pu dire, je viens de me marier, on est deux. Surtout qu'on voit que dans le texte, il y avait de la place. Il y avait de la place. Imaginez, que ressentiriez-vous ? Allez, on va faire un repas de mariage. Vous invitez plein de personnes. Vous invitez les amis, vous invitez ceux que vous voulez honorer et qui soient là. Et le premier vous dit, je viens d'acheter une maison, désolé, je ne peux pas venir. Le deuxième vous dit, j'ai trop de travail, désolé, je ne peux pas venir, je vais travailler ce week-end. Le troisième vous dit, maintenant j'ai une femme, je ne peux plus venir. Vous diriez quoi ? Viens, mais j'ai aucune valeur à leurs yeux. Ils ne m'aiment pas. Je les invite, je leur fais un honneur. Et au final, plutôt que répondre à l'invitation, ils la déclinent, ils s'excusent. Mais est-ce que ce n'est pas un peu ce qu'on fait avec Dieu ? Est-ce que ce n'est pas un peu le drame de notre humanité ? C'est qu'au final, il y a la chose la plus merveilleuse qui soit, c'est d'être dans l'intimité de Dieu. Et au final, les personnes, parce qu'elles n'aiment pas Dieu, ou plutôt parce qu'elles aiment certaines choses plus que Dieu, déclinent l'invitation du Seigneur, déclinent le salut. Non, je ne serai pas sauvé aujourd'hui parce que je préfère ceci. Parce qu'être sauvé, ça veut dire qu'il faut que je renonce à ceci ou que je renonce à cela. Mais au final, on voit que les choix que l'on fait sont le reflet des priorités dans nos vies. En tout cas, pour ces hommes qui étaient invités, qui étaient honorés par celui qui invitait, elles vont mépriser cet homme parce qu'elles préféraient autre chose. Elles donnaient du prix à certaines choses, plus qu'à cet homme. Donc elles le méprisaient. Ou en tout cas, elles estimaient moins importante son invitation que leurs activités ou d'autres relations. Et au final, on voit vraiment le paradoxe. C'est que cet homme va préparer un repas, va payer un prix pour des invités, et ces invités vont ne pas donner de prix à celui qui va payer le prix pour eux. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Jésus est mort à la croix, il a payé le prix de sa vie pour nous, et les hommes déclinent l'invitation parce qu'il y a plus important que la personne de Jésus. C'est ce qui se passe. Mais heureusement, il n'y a pas que des personnes qui ont décliné l'invitation. On voit plus loin, au verset 21, que le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, ce qui se comprend, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins, le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. » On voit que d'autres ont accepté. Alors, ce n'était pas celui qui avait le champ, ce n'était pas celui qui avait une femme, ce n'était pas celui qui avait 5 paires de bœufs, mais c'était des pauvres, des estropiés, des aveugles, des boiteux. C'était des personnes, au final, qui n'auraient pas dû être invitées. On va dire ça comme ça. En tout cas, elles n'étaient pas invitées à l'origine. Alors, bien sûr, c'est une parabole. Ça veut dire qu'une parabole, c'est une image pour illustrer une réalité. Et si on veut comprendre pourquoi c'est les estropiés, les aveugles, plutôt que ceux qui avaient le champ, les bœufs et la femme, il suffit de lire la parabole d'avant pour comprendre. Mais est-ce que des fois, on peut décliner l'invitation parce qu'on ne se sent pas digne, parce qu'on se sent pauvre, parce qu'on se sent estropié, parce qu'on se sent aveugle, parce qu'on se sent boiteux, et au final, on ne se sent pas digne d'aller au repas? Ça vous est jamais arrivé? Dieu m'invite, mais je suis trop mauvais. Et pourtant, on voit dans cette parabole que ces hommes, ces femmes ont été invités. Et au final, le sens de cette parabole, c'est quoi? C'est que l'homme va dire à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répond, « Heureux plutôt, celui qui accepte l'invitation et qui viendra au royaume, prendre son repas dans le royaume de Dieu. » Alors, tout à l'heure, j'avais cité ce verset, je le recite, où dans la parole, il nous est dit que le Saint-Esprit dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » On pourrait dire « Aujourd'hui, si vous entendez l'invitation du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. » Est-ce que vous entendez l'appel de Dieu au travers de la parole, au travers de cette parabole qui vous invite à communier avec lui? Et au final, tout comme ces invités, ces différents types d'invités qu'il y a eu, on a le choix. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais dire au Seigneur, oui, je viens? Mais peut-être que venir, ça voudra dire renoncer à certaines choses. Et alors il faut se poser la question, mais qu'est-ce qui a de plus de valeur? Est-ce que c'est cette chose à laquelle il me faut renoncer pour venir à Dieu? Ou est-ce que c'est la personne de Dieu? En tout cas, pour Dieu, lorsque l'on voit le prix qu'il a payé, on voit ce qui avait de la valeur à ses yeux. C'était nous. À un moment, il nous est dit que Jésus, c'est dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 2, qu'il a renoncé à tout ce qu'il avait, à sa position, à son égalité avec le Père, qui s'est dépouillé, et qui s'est fait homme, et qu'une fois homme, il s'est humilié, qui s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi? Parce qu'il y avait des sentiments qui étaient en lui. Ces sentiments, c'était des sentiments d'amour pour nous. Donc le sacrifice de Jésus, le prix payé, nous montre la valeur que nous avons à ses yeux. Mais là n'est pas la question. Dieu a tant aimé le monde. Dieu vous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. La question n'est pas la valeur que vous avez aux yeux du Père. Il nous l'a montré à la croix. La valeur, elle est infiniment élevée. La question est, quelle est la valeur que Dieu a à mes yeux? Mais il me suffit de regarder le prix que je vais payer. À quoi suis-je prêt à renoncer pour la présence de Dieu? Parce que vous savez, venir à Jésus, venir à Dieu, ça veut dire renoncer à certaines choses, renoncer à certains comportements, renoncer peut-être à des péchés, renoncer à l'impudicité, renoncer au vol, renoncer au mensonge, renoncer à toutes sortes de choses qui ne sont pas tolérées dans la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Le champ, les bœufs, la femme, le mariage? Ou est-ce que le plus important n'est pas la présence de Dieu? En tout cas, Dieu a fait son choix. Quel est le choix que vous allez faire? C'est la question que l'on peut se poser ce soir. En tout cas, dès à présent, maintenant, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais au contraire, acceptez cette invitation. Et on comprend pourquoi, juste après, l'évangéliste Luc a choisi de mettre ce que Jésus a dit plus tard, Il va dire, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer, à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. On voit au final que oui, vous dire que l'invitation, elle est, oui, c'est gratuite, oui, c'est Dieu qui a payé le prix, mais quand même, venir à cette invitation implique de renoncer à certaines choses. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut renoncer à tout ? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut renoncer à tout ce qui peut nous empêcher d'aller à ce repas. Et si une relation, si un travail, si une activité m'empêche de communier avec Dieu, alors j'ai toujours un choix à faire. Qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que c'est ce travail, cette activité, cette relation ? Ou est-ce que c'est ma relation avec Dieu ? C'est ça qui est important. Et si on va dans une parabole équivalente qui se situe dans l'évangile de Matthieu, je vois qu'on a un peu de temps, on peut aborder un dernier point. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, on a à peu près cette même parabole, mais elle n'est pas donnée dans le même contexte. À un moment, on a cette même parabole au verset 22, où là, par contre, elle est exprimée d'une manière un peu différente. Au verset 2, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » Donc là, c'est les noces de l'agneau. « Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. » etc. Et à un moment, au verset 10, il nous est dit, au verset 9, donc c'est la même chose qui se passe, certains déclinent l'invitation, certains pour leur champ, d'autres pour leur trafic, d'autres même vont jusqu'à outrager les serviteurs. Au verset 8, « Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. » Donc ça, c'est ceux qui ont accepté l'invitation. « Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Oui, il y avait l'appel, oui, il y avait l'invitation, mais à un moment, lorsque l'on est invité, vous êtes d'accord qu'on se prépare. Si vous étiez invité chez un notable de la ville, je sais pas, le maire de Toulouse qui se marie, enfin, on prend un exemple, on est invité, comment on va y aller ? Est-ce qu'on va y aller avec la chemise trouée, le jean, les claquettes ? Ou est-ce qu'on va se préparer ? Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y a le grand repas qui arrive. Il y a le repas des noces de l'agneau. Et vous savez qu'à un moment, il y a eu un homme qui a voulu venir à ce repas, mais qui ne s'était pas préparé. Et vous savez, accepter l'invitation, c'est aussi accepter de se préparer. Vous êtes d'accord ? Au final, moi je me rappelle, une fois, il y avait un mariage qui avait lieu ici, je me préparais. Qu'est-ce que je vois sur la chemise ? Une tache. Moi, je ne suis pas venu avec la tache. J'ai fait en sorte de changer de chemise. Voilà, j'avais pas le temps pour la laver. Si j'avais eu le temps, j'aurais lavé la chemise. J'aurais lavé les taches. Et vous savez, nous tous qui avons accepté cette invitation, qui avons choisi la personne de Jésus, nous sommes comparés à l'épouse. Et à un moment, il nous est dit que Jésus va venir chercher une épouse qui est sans tache ni ride. C'est dans Éphésiens au chapitre 5 et au verset 27. Les tâches, c'est quoi ? Ben, c'est tout ce qui peut venir dans notre marche journalière nous tâcher. C'est les péchés qu'on peut faire à droite, à gauche. Mais il faut nous préparer. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, se préparer à ce repas, c'est simplement demander pardon à Dieu et se repentir de tout ce qui peut venir salir ma robe. Il y aura toujours des tâches. Mais est-ce que je vais accepter ces tâches, et dans ce cas-là, je ne serai pas prêt, ou est-ce que je vais continuellement, à chaque fois qu'il y aura quelque chose qui attriste le Seigneur, qui attriste le Saint-Esprit, bah lui demander pardon, croire dans sa grâce, qui pardonne, qui purifie, qui lave, et continuer. C'est ça la marche chrétienne. C'est apprendre à ne pas salir, bien sûr, mais c'est à chaque fois qu'il y a des taches qui viennent salir le vêtement blanc que Dieu m'a donné, eh bien, je le nettoie. Sans tache ni ride. Ah, les rides, c'est quoi? C'est l'usure du temps. Bon, alors c'est vrai que nous, les garçons, on n'a pas trop ce problème. Mais généralement, les dames, quand il y a la ride, clac, clac, un petit coup de peinture, et hop, elle disparaît. Non, je rigole. Un petit coup de je ne sais plus comment ça s'appelle, de fond de teint. Voilà. Et bon, alors bien sûr, spirituellement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais les rides, c'est l'usure du temps. C'est l'usure du temps. Et oui, à un moment, j'ai accepté cette invitation, parce que j'étais passionné pour le Seigneur. Est-ce que j'entretiens cet amour pour le Seigneur? À un moment, Jésus dira à son épouse, dans l'Apocalypse, à une église, il dira, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Donc des fois, est-ce que ça n'arrive pas aussi que le temps passant, il y a l'invitation, on a répondu à l'invitation, mais la porte du banquet tarde un peu à s'ouvrir. Est-ce que des fois aussi, il ne peut pas y avoir ce risque que l'on se ride, l'usure du temps, l'amour qui diminue à cause du temps? Et bien là aussi, la Bible est claire, reprends-toi et souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et si au final on a accepté cette invitation et que l'on se reconnaît dans ce cas-là, bah tout simplement, rappelons-nous là d'où nous sommes tombés, revenons à la croix, à ce que Jésus a fait pour nous, re-regardons le prix que lui a payé pour nous et acceptons de remettre tout notre cœur dans cette relation avec le Seigneur. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Merci pour ce grand repas, Seigneur. Pour ce repas que toi tu as préparé. Pour ce repas qui est possible uniquement parce que tu en as payé le prix. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix, pour le prix que tu as payé, pour nous, pour nos vies, pour que nous puissions être dans ta présence. Et merci Seigneur parce que si nous pouvons venir, c'est parce que toi d'abord tu es venu jusqu'à nous. Et nous voulons te dire merci. Seigneur, merci pour cette invitation qui retentit encore, ou qui nous est rappelée, Seigneur. Et merci vraiment pour tous ceux qui ce soir ont choisi de répondre à ton appel, de renoncer à tout ce qui peut être un obstacle à ta présence et à venir à toi. Et pour nous qui avons accepté cette invitation, c'est vrai que nous voulons qu'il n'y ait ni tache ni ride dans nos vies, Seigneur, mais que nous puissions être purs devant toi, parce que tu pardonnes de tout péché et sans usure du temps, Seigneur. Alors nous te demandons ton aide, parce que ce que nous voulons, c'est non pas être trouvés comme cet homme qui était avec, qui n'avait pas revêtu cet habit de noces, mais nous voulons, Seigneur, être revêtus de ta grâce, Seigneur, et ne pas avoir à rougir lorsque nous nous présenterons devant toi. Merci, Seigneur, pour cette soirée. Merci encore pour cette opportunité que tu nous donnes de répondre à cet appel. Et vraiment que toute la gloire te revienne, Seigneur, parce que si nous sommes invités, ce n'est non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est parce que tu nous aimes et que tu as payé le prix pour que nous puissions y être. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.